dans votre magazine Un jour, un métier sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelle 106.3 FM. Une émission à destination de tous, une émission pour découvrir un métier d'avant et d'aujourd'hui.
Il y a tellement de métiers qu'on a du mal à trouver.
Une passion ou une profession, venez partager votre expérience sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelle.
Aujourd'hui, nous allons parler de Julien Laredo, brasseur de la brasserie Bonne Étale à Bonne Étable. Alors, Monsieur Laredo, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, présentez-vous, parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel.
Alors, mon parcours professionnel est plutôt atypique. Je suis souvent passé du coq à l'âne. J'ai commencé en tant que musicien. J'ai fait une fac de musicologie. Je suis devenu berger. Je suis devenu militaire. Je suis devenu étudiant en fac d'histoire et j'étais assistant d'éducation à temps plein en même temps. J'ai fait un CAP plomberie chauffage. Je suis devenu artisan dans le bâtiment. Puis après, j'ai été salarié un petit peu dans le bâtiment. Et j'ai fait une formation en IUT technicien de process brassicole en début janvier 2020. Voilà. Et depuis, je m'installe. Je suis retourné un petit peu bosser à l'usine parce que j'avais plus de droit chômage à un moment parce que l'installation a été longue. Voilà. Ça faisait plus de 4 ans que je faisais tout pour m'installer. J'ai décidé de m'installer en 2019, d'ouvrir une petite brasserie. Il y a eu une association avec quelqu'un qui n'a pas marché aussi. C'était un projet un petit peu plus grand. Je suis retourné mon petit projet qui peut se développer. Pour l'instant, c'est relativement minimaliste. J'ai démarré à moindre coût et ça m'a demandé de construire mon bâtiment moi-même. Donc ça fait partie des choses qui m'ont demandé du temps voilà, durant ces 3-4 dernières années.
Et comment vous avez découvert ce métier de brasseur ?
Parce que j'étais dans le bâtiment et je travaillais en déplacement sur toute la France. Et c'est au début des années 2010 à me trouver dans le Nord-Pas-de-Calais avec des gens super sympas qui m'ont fait découvrir des super bonnes bières. Ça m'a amené, quand je rentrais ici, à aller voir les cavistes pour m'en acheter, pour étudier. Et puis je faisais des tours en Belgique pour en ramener beaucoup. Et ensuite, on m'a offert un kit à bière à Noël. Ma femme m'a offert un kit à bière, ça devait être en décembre 2014. Voilà, j'ai commencé à brasser mes bières en début 2014. Et puis la passion a continué et le parcours professionnel fait qu'un chaos de plus m'a décidé quoi. C'est parce que faisait quelques années qu'on me disait mais tes bières elles sont bonnes, pourquoi tu les vends pas? Ça faisait réfléchir, moi j'avais été beaucoup à mon compte et c'est vrai que être à son compte et redevenir salarié ça peut être compliqué, enfin pour moi c'est compliqué en tout cas. Voilà, la passion de la bière plus le parcours professionnel qui était un petit peu j'ai arrêté le bâtiment parce que j'étais beaucoup en déplacement, parce que la vie de famille, parce que quelques aléas, je suis retourné salarié dans le bâtiment, ouais, c'était compliqué. Donc voilà, le parcours professionnel, la passion pour la bière et le stade de mon parcours professionnel dans lequel j'étais à ce moment-là ont fait que j'ai choisi. J'ai eu une super conseillère Pôle emploi qui m'a permis d'accéder à une formation très rapidement. Pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une microbrasserie, de faire de la bière.
Et d'ailleurs, quelle est votre formation sur ce domaine ?
Un diplôme universitaire de technicien de process brassicole. C'est une petite formation, mais un diplôme d'État quand même. J'ai fait la petite formation à Avignon en janvier 2020.
Et qu'est-ce que vous avez appris lors de cette formation ?
Alors, c'est très axé microbiologie, sciences et scientifiques. On avait des super profs qui étaient avant tout des scientifiques hein, avant d'être brasseurs, même si on a rencontré quelques brasseurs et qu'on parlait de bière et qu'il y avait du matériel pour faire de la bière. On a surtout étudié ce qui se passait dans une boîte de pétri, dans l'univers du tout petit. Voilà, faire de la bière, c'est un petit peu entre faire de la cuisine et faire de la chimie, quelque part.
Quelle a été la durée de cette formation ?
C'est une quinzaine de jours, mais très intense.
Et est-ce que cette formation est obligatoire pour devenir brasseur ?
Non, puisque justement, là, ça me permet de me déclarer artisan, puisque j'ai un diplôme d'État, mais quelqu'un qui justifie de tant d'années d'expérience en tant que salarié chez un artisan peut aussi, c'est pas une qualification, mais une dénomination.
Alors justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de brasseur ?
Qu'est-ce qui me plaît ? Pouvoir vivre de ma passion, tout simplement, parce que, voilà, je vous dis, c'est la conjonction, en fait, d'une étape professionnelle, enfin, d'un changement de cap professionnel, même si c'est pas forcément un tournant, hein, puisque moi, mon parcours professionnel, c'est une succession de chaos, de virages, je sais pas. Donc, c'est cette conjonction avec le choix de vivre d'une passion.
Et vous avez ouvert votre propre brasserie, vous l'avez appelée Bonne Étale. Pourquoi ce nom ?
C'est un petit jeu de mots avec Bonne Étable. Voilà, il y a la publicité, la Goudale, c'est parce que c'est une bonne bière en anglais. Voilà, les ale sont un type de bière. Aujourd'hui, il y a 3 grandes familles de bières et c'est une des 3 grandes familles. Celle à laquelle j'appartiens, je fais des ale, je produis des ale. Donc voilà, Bonne Étale, ça ressemblait à Bonne Étable. J'adore la brasserie Saint-Marc-la-Bière, à Saint-Marc-la-Brière. Voilà, j'ai dû m'en inspirer quoi, quelque part.
Et qu'est-ce que vous proposez justement en termes de bière ?
Qu'est-ce que je propose en termes de bière ? Alors, moi j'ai la particularité de me brasser qu'avec des levures sauvages. Alors pour que l'auditeur comprenne, enfin l'auditeur, tous les auditeurs, hein, parce que bon, y a quand même des gens qui sont bien au courant, c'est qu'en fait, une bière, c'est comme tout alcool, et c'est un jus sucré qui est fermenté par des levures. Que ce soit le vin, c'est un jus de raisin, le cidre du jus de pomme, le bioéthanol qu'on met dans les voitures, c'est du blé. Voilà, bon, je fais pas de bioéthanol, mais la bière, c'est un jus de céréales qui est fermenté par des levures. Là, l'immense majorité des brasseurs aujourd'hui achètent des levures en laboratoire qui correspondent à tel ou tel profil de bière, qui vont laisser telle ou telle quantité de sucre une fois la bière finie. Et moi, j'utilise que des levures sauvages, en fait, que des levures que je récolte, surtout que je sélectionne et que je développe à bon étable. Donc concrètement, mes bières, parce que en dehors du fait que la levure ne passe pas par un laboratoire, mais qu'elle soit directement issue du terroir, si on peut dire, ça présente vraiment deux gros avantages pour moi. C'est celui de fermenter des bières dans lesquelles il va ne rester aucun sucre résiduel, c'est-à-dire qu'elles mangent tous les sucres, donc on a une bière qui est sans sucre au final. C'est un petit peu compliqué des fois à expliquer le concept, puisque une bière c'est quand même du sucre, c'est aussi du sucre qui a été mangé. Et les levures de laboratoire sont plus ou moins prévues pour en laisser telle ou telle quantité. Et dans une bière, il reste en général entre 20 et 40, voire 50 grammes de sucre au litre, et au moins 20 grammes. Voilà, dans mes bières, il reste zéro sucre au litre. Donc moi, personnellement, je trouve que ça a quand même un intérêt gustatif, même si ça peut dérouter quelques fois au départ. Je suis passé par là avant. Et ça a un gros intérêt sur le plan santé, c'est-à-dire que les diabétiques peuvent en boire. Ça peut être intéressant dans le cadre de certains régimes dissociés. C'est un petit peu moins calorique, mais l'alcool étant calorique, voilà, c'est pas des bières zéro calorie non plus. Mais c'est un petit peu moins calorique quand même. Maintenant, le deuxième grand avantage de ces bières sauvages, c'est des bières qui vieillissent bien. Le profil met du temps à s'affirmer. Alors, je suis obligé de les vendre parce que j'ai pas ni le matériel ni le temps pour les stocker pendant un an et demi, deux ans, avant qu'elles arrivent au top de leur maturité. Mais voilà, il faut savoir que ce sont des bières qui vont s'affirmer, le caractère va s'affirmer avec le temps. Et là, ça devient vraiment des bières extrêmement intéressantes, à mon goût. Hein. Encore une fois, tous les goûts sont dans la nature, ça je peux pas le discuter, mais j'ai vraiment fait des bières que j'aimais. J'ai eu une longue installation qui m'a permis de vraiment travailler les bières que j'allais proposer, et même si j'ai pas vraiment travaillé les bières que j'allais proposer, puisqu'il y a des bières que j'ai presque improvisées, en fait, il fallait choisir une blonde, il fallait choisir une triple. J'ai beaucoup passé de temps à sélectionner mes levures, et donc à faire des bières avec telle ou telle levure, et tel ou tel ingrédient, et la conjonction des 2, des 3, des 10, des 15, et pour voir ce que ça allait donner. Ça, j'ai dû beaucoup le travailler, puisque effectivement, si on choisit de travailler avec des levures entre guillemets encore de laboratoire, voilà, il y a des profils qui sont déjà fournis, il y a des recettes que l'on peut trouver facilement, voilà, ça demande moins de temps.
Et d'ailleurs, comment vous créez ? Donnez-nous un exemple.
Comment je crée ? Aujourd'hui, c'est différent. Au départ, vraiment, j'essayais tout, quoi. J'essayais toutes les céréales que je pouvais essayer. Et c'est la conjonction d'une céréale. Enfin, c'est une ou plusieurs céréales avec un ou plusieurs houblons, avec une levure. Et encore, j'en passe, quoi. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, c'est des fois le hasard, des fois la réussite en se disant, ben, j'essaye ça, il faut que je modifie ça, il faut que je modifie ça. Donc, c'est que pour arriver à certaines bières, des fois, j'en ai fait 40, j'en ai fait 50 ou 60 différentes pour arriver à quelque chose. Et encore, j'en ai qui sont pas finies. J'en ai plusieurs, voilà, je sais que j'ai des choses à améliorer. Des fois, c'est une idée la nuit, et puis je passe à l'action, je la brasse, et puis au final, voilà, elle est quasi comme elle doit être, elle est comme je la voyais. Il y aura peut-être une ou deux modifs à faire, mais c'est léger, ça se passe rapidement. De plus en plus, hein, parce que plus on a d'expérience, forcément, plus on sait ce qu'on va faire. Hein. C'est comme un musicien, voilà, s'il entend une musique, il est capable de le jouer comme il l'entend, et puis plus ça va, plus il est capable de jouer, d'entendre une symphonie avec 40 voix différentes. Voilà, c'est le temps, expérience qui fait ça aussi, je pense. Maintenant, mais c'est pas de la musique non plus. S'il y a des choses, des fois, des choses qui peuvent être surprenantes. Quoi. Surtout quand on sélectionne et on développe des souches de levure, ça, voilà, on peut pas déterminer à l'avance vraiment tous les résultats. Quoi. Surtout quand il faut beaucoup de temps pour voir ce que la bière va donner avec du temps.
Yeah, you may have all you want.
Comment vous êtes équipé pour justement créer ces différentes bières ?
Alors moi, c'est vraiment minimaliste. Hein. C'était un choix. J'ai très très peu emprunté. J'ai un tout petit crédit qui était là pour la trésorerie. Surtout, tout mon matériel m'appartient et c'est vraiment que tout est pensé à l'extrême pour que produire 300 litres de bière revienne le moins cher possible en matériel. Alors, c'est pas pour ça que ça revient moins cher en temps. Ça, c'est sûr que voilà, j'exclus pas la possibilité de passer à un outil qui produirait 1000 litres par semaine. Mais dans ce cas, il faudrait deux. Il faudrait emprunter quelque chose de conséquent. On n'y est pas. Voilà. Je l'exclus pas, même si je vois pas les choses plus grandes que ça non plus. Mais c'est vrai que se répartir les tâches et travailler un petit peu moins parce que j'ai vraiment de très grosses semaines. Mais mon matériel, je peux pas dire qu'il m'ait rien coûté. Mais il est ultra minimaliste. Par exemple, mes fermenteurs m'ont coûté 10 euros. J'ai pas de système d'extraction des vapeurs. J'ai pas de pompe. J'ai pensé à des tas de choses qui font que je pense à une des microbrasseries les moins chères en rapport avec ce qu'elle peut sortir. Et c'est vrai que voilà, le ratio est impressionnant. J'ai vraiment très peu mis d'argent dans mon matériel pour avoir un outil qui est viable quelque part, qui demande quand même pas mal d'efforts.
Dites-nous quelles sont justement les bières que vous faites et les différents noms de celles-ci.
Alors, j'ai une blonde, une pale ale, dans laquelle il y a du houblon sauvage de bonne étable. J'ai une blanche dans laquelle il y a de la fleur de sureau sauvage de bonne étable. J'ai oublié de vous dire que toutes mes bières étaient refermentées au miel en bouteille. C'est une des particularités en plus de brasser qu'avec mes souches de levure. Enfin, mes souches de levure de bonne étable. Ouais, je n'ajoute pas de sucre comme quasi toutes les brasseries à l'embouteillage pour faire du CO2. Moi, j'ajoute du miel. Il y a des brasseries aussi qui forcent le CO2. Il faut être équipé pour, mais on peut aussi forcer du CO2 à l'embouteillage. Mais la grande majorité encore des microbrasseries un petit peu de sucre à manger aux levures pendant l'embouteillage, parce que les levures font deux choses. Elles font de l'alcool, et dans un premier temps, c'est ce qui nous intéresse pendant la fermentation, et dans un deuxième temps, ce qu'on appelle la refermentation bouteille, c'est elles vont produire un petit peu d'alcool, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le gaz qui va rester dans la bouteille pour faire des bulles. Donc moi, à ce moment-là, en fait, j'ajoute pas de sucre de betterave ou de canne, j'ajoute du miel local. C'est juste parce que je commençais à vous énumérer les petits produits locaux que je peux utiliser. Moi, j'ai mis l'accent sur le local. La bière, ouais, je sais pas si vous allait me poser la question, mais je l'ai appelé le pavillon et je l'ai vraiment axé sur sa localité. Donc j'ai une blonde, j'ai donc une pale ale à 5,7, j'ai une blanche à 5,4 et j'ai une ambrée à 6,9, dans laquelle il y a un petit peu de miel, un petit peu plus que d'habitude. J'ai une fermentation spontanée qui est quelque chose de très rare, dans la Sarthe au moins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les levures, il y a les ferments ambiants. Donc ça donne une bière sans doute, entre guillemets, un peu plus authentique. Ça, c'est pas une ale, c'est un lambic, c'est une bière naturelle. Et donc la blanche, la blonde, la ambrée, la fermentation naturelle, c'est une sour, c'est une bière acide, cette fermentation naturelle. Donc on adore ou on déteste. Hein. C'est très tranché comme caractère, là, et voilà, ça marche super bien avec un sirop. Mais bon, c'est dur à vendre parce que les gens n'achètent pas une bière artisanale pour mettre un sirop dedans. C'est dommage parce que ça fait vraiment la bière aux fruits idéale et en fait polyvalente parce que on peut la choisir. En ajoutant le sirop qu'on veut, on obtient une super bière aux fruits qu'on veut. Ensuite, voilà, j'ai une IPA qui mérite de progresser, qui a été un petit peu improvisée aussi. J'ai une triple qui, elle, justement, était faite assez rapidement. Enfin, j'ai choisi de la faire rapidement parce que j'avais fait des tas de triples, mais j'ai choisi cette recette dans laquelle il y a un petit peu de fleurs de sureau sauvage aussi. En gros, j'ai remplacé l'écorce d'orange qu'on trouvait dans les bières belges par de la fleur de sureau. Donc, que ce soit pour ma blanche ou pour ma triple, c'est de la fleur de sureau sauvage de bon état. Et puis, il y a pas mal de miel dans la triple aussi, plutôt que de rajouter beaucoup de sucre et beaucoup de miel. J'ai une quadruple à 11,5, voilà, qui pour moi est une bière de table, un super vin, une bière d'hiver qui marche vraiment avec les gros plats d'hiver, aussi avec la charcuterie et les desserts beaucoup. Et puis j'ai une grosse bière noire à 12,5 degrés. Là, je me suis fait plaisir. J'ai même mis en concurrence plusieurs levures sauvages et au final, j'ai mis une levure que j'ai récupérée d'une brasserie que j'ai piratée, une grande brasserie qui s'est vendue à un grand groupe. Alors bon, j'ai le droit de le dire parce que les levures n'appartiennent à personne, il n'y a pas de droit sur les levures. Mais c'est la seule de mes bières dans laquelle il reste un petit peu de sucre. Il en reste très peu par rapport à ce type de bière en général, qui est vraiment très très sucré pour le coup. Voilà, c'est un petit peu comme si j'avais attaqué un gros bateau espagnol, une grosse brasserie belge qui s'est vendue à un grand groupe. Ah, il y a beaucoup de bananes qui sont récupérées du Super U, voilà, des invendus, parce que c'est une bière pirate, c'est une noire pirate, donc il y a énormément de bananes dedans. Je récupère à peu près au moins 70 kilos de bananes pour faire 150 litres. Il y a 6 kilos de noix de coco, voilà, puis il y a un visuel un peu pirate, c'est le pavillon noir.
Alors pourquoi justement avoir appelé votre bière le pavillon ?
Puisque j'habite le lieu-dit, le pavillon. Et voilà, pour moi, c'était une bière locale, donc je comptais mettre l'accent sur le local, sur la localité. Voilà, j'ai un logo de brasserie qui est le blason de bon étable, sur lequel j'ai rajouté un cône de houblon, puisqu'il était bleu comme l'eau. Il y a 3 épis de blé, de céréales. Il manquait le houblon pour faire la bière, hein, pour les 3 ingrédients. Bien sûr, il manque les levures, mais bon, ça, c'est plutôt le travail des levures qui compte que la levure en elle-même. Et le pavillon, puisque j'habite le lieu-dit, le pavillon, et que la brasserie se trouve sur le lieu-dit, le pavillon, rue des vignes. Donc on trouve encore des vignes sauvages dans ce coin-là, sur Bonnétable. On est sur les anciens coteaux de Bonnétable. Donc ça me plaisait de me dire que c'était peut-être des levures qui fermentaient le vin à une certaine époque, qui fermentent aujourd'hui ma bière. Donc je voulais aussi que l'étiquette ait un aspect vineux. En fait, on retrouve des codes qu'on a sur les étiquettes de vin. Et sachant qu'un drapeau, un pavillon, ça a le format d'une étiquette, voilà, de tiers un tiers. Je voulais pas avoir un drapeau dans l'étiquette, mais je voulais que l'étiquette soit le drapeau. Et pourquoi le pavillon? Pourquoi ce logo de Bonnétable? Chaque bière est un drapeau, quoi. Chaque bière est un pavillon blond, c'est un drapeau blond, un pavillon triple, c'est un pavillon tricolore, etc.
Et où peut-on retrouver vos bières?
Alors, je vous conseille d'aller voir sur le Facebook de la brasserie, puisque le site, ouais, j'essaye d'avoir 2 jours depuis un an pour le travailler, j'ai toujours pas fait. Facebook, ça se fait un peu plus progressivement, et voilà, il y a la carte des points de vente sur le Facebook, parce que j'ai du mal à énumérer les 30, ou à en dire, sans en oublier, voilà, ça commence à devenir compliqué. Donc le mieux, c'est d'aller sur le Facebook et de voir cette carte avec tous les points de vente, parce que voilà, je suis dans des super-aides, dans des bars, chez des cavistes, des grandes surfaces, voilà, j'ai pas mal de vendeurs différents, dans des localités différentes, bien que voilà, ça reste encore très local, hein, et ça devrait le rester.
Quels sont vos projets, justement ?
Quels sont mes projets? Réussir à en vivre tous les mois, voilà, parce que là pour l'instant c'est pas le cas. Ça c'est la priorité. C'est la priorité, améliorer un petit peu mes bières, voilà, sur certains aspects, pas toutes, mais quelques-unes. Ça c'est les premiers projets, on verra après. Enfin, que ça se sera fait, on verra après. Voilà, j'aimerais en sortir quelques autres aussi, des bières éphémères surtout. Voilà, j'ai du mal à trouver le temps, mais j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à sortir. Ça c'est vraiment les projets immédiats. Et s'il y a plus, voilà, ce sera ensuite.
Un mot pour la fin?
Un mot pour la fin, merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, puisque c'est pas toujours évident de comprendre un petit peu le concept de levure sauvage quand on n'a déjà pas intégré vraiment le process de la conception, la fabrication d'une bière. Alors voilà, des fois j'ai peur de perdre un petit peu les gens dans mes explications, donc j'espère que j'aurai été assez clair. Sinon, n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions, pour visiter la brasserie, pour vous éclairer. Voilà, ce sera un plaisir.
Monsieur Laredo, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès pour vos bières et je vous dis au revoir.
Eh bien, moi aussi, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis au revoir.
Fate di morte, fate così, fate di sole.